Vous écoutez France Inter, il est 18h. Et c'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France, en compagnie ce soir de Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction du journal Libération, qui publie le roman de la France. À 19h20, au téléphone sonne, suite au rapport de la Cour des comptes commandé par le gouvernement après la crise des Gilets jaunes, cette question: comment mieux lutter contre la fraude fiscale? On en parle au 01 45 24 7000. Vous pouvez déjà nous appeler, sachant que nous relayerons vos questions à l'antenne sans pouvoir vous prendre en direct compte tenu de la grève qui se poursuit à Radio France. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. L'Allemagne regarde en face l'horreur nazie à Auschwitz. Pour la première fois, Angela Merkel a visité le camp d'extermination et en prend la responsabilité. Le Premier ministre Édouard Philippe tente de calmer la colère au lendemain des manifestations très suivies contre sa réforme des retraites. Mais il promet également de la fermeté pour mettre fin aux régimes spéciaux. Nous verrons comment les voyageurs de la gare du Nord à Paris se sont organisés en cette deuxième journée de grève et s'ils soutiennent le mouvement. Et puis des débordements violents avec les forces de l'ordre. Un lycéen de 15 ans a été blessé ce matin à Lyon. Ce soir également, des implants contraceptifs qui migrent du bras d'une femme à ses poumons. La NSM demande la plus grande vigilance. Et les handballeuses françaises éliminées du mondial dès le premier tour. Une énorme contre-performance pour les tenantes du titre. De la douceur mais de la pluie aussi. Le point météo à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
France Inter. Le souvenir des crimes nazis inséparables de l'identité allemande.
Les mots forts historiques de la chancelière Angela Merkel lors de sa première visite à Auschwitz, le funeste camp d'extermination nazi situé en Pologne. Elle est même la première chef du gouvernement allemand à s'y rendre depuis près de 25 ans. Un moment tout sauf facile, a reconnu Angela Merkel, dans un acte de repentance condamné par l'extrême droite en Allemagne. Notre correspondant Ludovic Piétenu l'a suivi pour France Inter.
Les mains jointes, la tête inclinée, les yeux fermés, Angela Merkel se recueille devant le mur des fusillés au camp d'Auschwitz.
Quel mot pourrait rendre justice au chagrin que cet endroit a causé?
La mine et le ton très grave, dans ce discours d'une quinzaine de minutes, la chancelière allemande endosse au nom de son pays la responsabilité pleine et entière de la Shoah. Auschwitz-Birkenau était un camp allemand d'extermination dirigé par des Allemands, dit-elle. Décrivant l'Holocauste comme inséparable de l'identité allemande, elle s'inquiète du contexte actuel, ce nombre record d'actes antisémites en Allemagne.
Aujourd'hui, face à un racisme alarmant et une intolérance croissante, face à la haine, nous devons défendre nos valeurs, nous lever, parler et nous opposer. Nous devons dire notre désaccord contre cette haine. Ce qui s'est passé ici, on ne doit jamais l'oublier.
Défendre la dignité humaine, la liberté et l'état de droit, c'est ce qu'Angela Merkel, chancelière depuis bientôt 15 ans, s'applique à elle-même avec constance. Aujourd'hui, dans ce lieu très symbolique, son discours ressemblait plutôt à un appel urgent à tous ceux qui veulent défendre la démocratie. Auschwitz, Ludovic Piétenu, France Inter.
Les Algériens sont peut-être également en train d'écrire leur histoire. Manifestation immense aujourd'hui contre le pouvoir et contre l'élection présidentielle de la semaine prochaine, le 12 décembre. C'était le dernier vendredi de protestation avant le scrutin.
Des cortèges très fournis en France, hier également, et la réponse cet après-midi du Premier ministre.
Édouard Philippe a pris la parole à Matignon. De la fermeté, mais pas de brutalité, semblait être le mot d'ordre. Le chef du gouvernement refuse la confrontation, mais en même temps, il ne bouge pas le calendrier. Les derniers partenaires sociaux seront reçus lundi. Le projet présenté mercredi midi au Conseil économique et social et environnemental. Et la solution pour imposer le régime par points, ce serait une transition douce, dit-il.
Je répète aujourd'hui ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives, afin de ne pas être brutales. Et je suis persuadé qu'avec les organisations syndicales, nous trouverons le bon point d'équilibre qui permettra à la fois de rassurer les personnels sur leur avenir, sans renoncer à la volonté très ferme qui est la nôtre de projeter le pays dans le futur et de mettre en place ce système universel.
Voilà pour le Premier ministre Édouard Philippe. Dès ce matin, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestation jusqu'à mardi. Les perturbations de trafic vont donc se prolonger, notamment à la SNCF et à la RATP. Ce matin, du côté des cheminots, il y avait encore plus de conducteurs en grève qu'hier. Qu'en est-il à la gare du Nord à Paris? Notre reporter Delphine Evenou est allée voir les voyageurs entre débrouille, lassitude et soutien à la grève.
Valise au bout du bras, visage un peu tendu, Jean-Charles n'est plus un usager mais un aventurier.
Là je travaille sur Aix-en-Provence, ma voiture est à l'aéroport de Lille et j'habite à Amiens. Je suis venu en avion, j'ai pas pu repartir en avion car il a été annulé. Et j'ai réussi à attraper le seul TGV qui est remonté vers Paris. Voilà. Et là je viens de racheter un billet pour Lille, ce qui va me permettre de récupérer ma voiture. Je prends ça avec philosophie et je remercie les gens qui font rouler le peu de train qui roule aujourd'hui.
Étage inférieur de la gare du Nord, voie pour les trains de banlieue, c'est un peu plus la cohue, les téléphones portables scrutent la scène.
Ils sont en train de filmer. Il y a beaucoup de monde ici, là. Il n'y a pas de train ni rien. Donc.
Simon commence à se lasser.
Pour le moment, je le soutiens, mais il fallait un service minimum. Mais il n'y en a pas.
Appuyée contre un poteau, Imen, elle, tente de rejoindre sa sœur dans le Val d'Oise.
Je suis là depuis 1h30.
La jeune femme n'a pas travaillé hier et aujourd'hui, et elle sait que la semaine prochaine s'annonce compliquée.
On essaiera de faire avec, on n'a pas le choix. Hein. Moi, je suis pour, donc je les soutiens. C'est pas grave, il faut être compréhensif.
Il faut aussi s'organiser, comme Diane.
J'ai de la chance, j'ai un cousin qui habite proche de mon lieu de travail, j'ai qu'un seul tram à prendre et il y en avait. Mais voilà, j'ai de la chance et je me suis organisée à l'avance.
L'anticipation, c'est la clé. Jusqu'à quand, c'est l'inconnu.
Delphine est venue à la gare du Nord à Paris et la circulation routière est également très compliquée en région parisienne ce soir. Plus de 580 km de bouchons, on est bien au-dessus d'un vendredi moyen. Dans l'éducation nationale, des enseignants ont repris le chemin de l'école, mais les classes ont encore été bien perturbées aujourd'hui. Dans les deux grandes universités de Bordeaux, les cours ont été suspendus par la direction à cause de blocages et d'occupations entamées hier par les étudiants. À Lyon, tout est parti aussi du blocage d'un lycée dans le 3e arrondissement. Hier, les forces de l'ordre sont intervenues, ce matin encore. Un lycéen de 15 ans a été blessé légèrement par un tir de LBD. Les policiers visaient un autre jeune qui jetait des projectiles. Mathilde Imberti est tentée de bloquer de nouveau leur lycée.
Le blocus du lycée est entrepris tôt ce matin par une cinquantaine de jeunes. C'est la suite de la mobilisation d'hier. En face, il y a une vingtaine de forces de l'ordre, selon nos informations, chargées de faire cesser l'occupation de l'établissement. Des projectiles commencent à voler contre eux. Les forces de l'ordre localisent un lanceur en particulier. C'est lui qui devait être visé, mais c'est un adolescent de 15 ans qui essuie le tir. Il est blessé à la joue. La vidéo de son visage ensanglanté tourne entre lycéens. Héloïse est en classe de seconde au lycée en Persax.
J'ai vu la vidéo, il avait du sang et tout ça. Ils ont appelé, donc il y a l'ambulance qui est venue. En attendant, il est monté chez quelqu'un qui habitait dans l'immeuble à côté du lycée. Je suis arrivée à 8h et à 8h, il y avait déjà une grosse foule dans la rue à côté du lycée. Il y a eu pas mal de mouvements de foule parce que les CRS chargeaient sur les lycéens. Il y avait des lycéens qui lançaient des pétards sur les CRS. Du coup, les CRS ripostaient avec des flashballs ou ils balançaient des bombes lacrymogènes.
Le jeune, victime du tir, est blessé légèrement d'après la direction de la sécurité publique. Une enquête judiciaire est ouverte et l'IGPN, la police des polices, est saisie. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Il est 18h08 sur France Inter, la suite du journal d'Amélie Perrier avec un verdict très attendu dans l'affaire Élodie Kulik.
Cette jeune femme violée est tuée en 2002, dont on n'a qu'un enregistrement téléphonique. Elle a passé pour appeler au secours. Seulement cet enregistrement avec les voix de ses meurtriers pour les identifier. L'accusation a requis 30 ans de prison contre Willy Bardon pour enlèvement et séquestration, mais elle a requis également l'acquittement pour le viol et le meurtre. Le président du Modem, François Bayrou, entendu par les juges depuis ce matin à propos des soupçons d'emploi fictif des assistants d'eurodéputés. La justice enquête sur ses collaborateurs payés sur des fonds européens qui auraient en fait été au service du parti à Paris. Une douzaine de responsables du Modem ont été mis en examen ces derniers jours, dont la vice-présidente Marielle de Sarnez avant-hier. C'est une méthode de contraception censée faciliter la vie des femmes. L'implant, ce bâtonnet en plastique installé sous la peau, dans le bras, il diffuse des hormones en continu pour éviter toute grossesse. Sauf que une trentaine de femmes ont vu leur implant migrer, certains jusqu'aux poumons, avec les graves complications que l'on imagine. Les autorités de santé sonnent l'alarme aujourd'hui. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Vous avez pu recueillir le témoignage de l'une de ces femmes victimes de son implant.
Oui, une cicatrice de 20 cm et des douleurs encore persistantes au niveau des côtes et des poumons. Olivia se remet doucement de la lourde opération qu'elle a subie en septembre dernier. Une thoracotomie pour retirer son implant disparu il y a presque 6 ans. Pourtant, quand elle s'en aperçoit seulement un mois après sa pose, sa gynécologue ne s'inquiète pas.
Elle m'a dit en fait qu'il serait certainement un peu plus profond dans le bras et que c'était pour ça qu'il se voyait pas forcément. On verra le jour où vous souhaitez l'enlever. Pour l'instant, on fait rien quoi.
Un an et demi après, Olivia souhaite avoir un enfant. Elle retourne chez sa gynécologue pour faire enlever l'implant. Malgré une recherche approfondie, rien.
C'est le grand mystère, puisqu'elle n'avait jamais eu le cas avant. Donc, elle s'est décomposée, moi avec, puisqu'on ne savait pas quoi me proposer, quoi faire pour le retrouver.
Ce n'est qu'en mai dernier, après 4 ans d'investigation, qu'un radiologue repère enfin l'implant lors d'un scanner.
Il était dans le poumon droit, donc il est passé du bras gauche au poumon droit.
Olivia reproche aujourd'hui à sa gynécologue d'avoir trop tardé et de ne pas l'avoir informée des risques.
Personne ne m'a prévenue. Ma gynécologue ne m'a jamais dit que je risquais une migration. Les gens ont besoin de savoir et ont le droit en fait, de savoir à quoi ils s'exposent quand ils prennent ce genre de dispositif.
Et l'Agence de sécurité des médicaments promet d'envoyer rapidement un courrier aux médecins et sages-femmes pour sensibiliser leurs patientes à ces risques.
Merci Hélène Chevalier. L'Agence du médicament ne préconise pas de retirer son implant, mais simplement de vérifier régulièrement qu'il ne bouge pas sous la peau. Des inquiétudes pour nos poumons cette fois et pour notre planète. Les défenseurs du climat marchaient aujourd'hui à Madrid en Espagne derrière Greta Thunberg, l'égérie de toute une génération, pour pousser les États signataires de l'accord de Paris à agir contre le réchauffement du globe, alors que se termine la COP25, la conférence climat de l'ONU dans la capitale espagnole. Des milliers d'arrestations en Iran, la haut commissaire aux droits de l'homme à l'ONU estime à au moins 7000 le nombre de personnes interpellées après les manifestations le mois dernier dans toutes les provinces iraniennes. Elle appelle cette haut commissaire, elle appelle les autorités à libérer tous les protestataires. Au Japon, une mauvaise passe pour les handballeuses françaises. Elles sont éliminées dès le premier tour du mondial. Après leur défaite ce matin face au Danemark, 20-18, les Françaises étaient pourtant championnes du monde en titre et championnes d'Europe l'an passé. C'est le plus mauvais résultat obtenu par les Bleus depuis 24 ans. Une énorme désillusion donc pour Amandine Lénaud, la gardienne de but et capitaine des Bleus, pourtant irréprochable pendant ce mondial.
Je me sens un peu vidée, un peu triste, un peu tous ces sentiments mélangés. On aurait pu gagner comme on a perdu. Enfin, c'était un match, je pense, pas très agréable à regarder, pas très agréable à jouer. Elles ont mis un faux rythme. Voilà, on est rentré dans ce piège-là. On a été incapable de mettre le rythme dans ce match-là. Et c'est ça qui est le plus décevant. Et en plus, on a les ballons. Il y avait le truc. Je pense qu'on s'est accroché jusqu'au bout. Ça l'a pas fait. Et il y a des joueurs comme ça. Voilà.
La handballeuse Amandine Lénaud au micro de Jean-Pierre Blimaud.
On termine par la prescription culturelle, c'est vendredi soir.
Et oui, on vous conseille un livre ce soir, Extérieur Monde d'Olivier Rollin, des souvenirs fragmentés, extrait de ses carnets, où l'auteur essaie d'en dégager une méditation mélancolique sur sa vie passée à arpenter le monde, à lire et à écrire. Splendide, nous dit Ilana Mor-Youssef.
Olivier Rollin déteste les mémoires, mais le terme d'anti-mémoire était déjà pris, alors va pour Extérieur Monde. Un livre où, comme dans une conversation à bâton rompu, il évoque les lieux où il est allé, les livres qu'il a lus et, de façon plus discrète, les femmes qu'il a aimées.
Dans mes carnets, il y avait des dizaines et des dizaines de scènes, de lieux du monde, de visages du monde. Je voulais composer une espèce de mosaïque ou de vase brisé à partir de centaines d'éclats. Voilà, c'était ça le point de départ. Faisant cela, évidemment, je me suis aperçu que, inévitablement, ça composait quand même une espèce d'autoportrait.
Il y a deux choses qu'on ne trouvera pas dans ce livre. Le récit de ces années révolutionnaires, Rollin l'a déjà fait ailleurs, et le numéro habituel des écrivains sur les grands espaces américains. Rollin est un écrivain trop racé pour de telles banalités. À la place, on parcourt avec lui la Russie, la Terre de Feu, l'Azerbaïdjan, le Soudan, et même, on entre sur la pointe des pieds dans la clinique où il a soigné autrefois une dépression sévère. Un épisode surprenant chez un écrivain aussi pudique.
Je pense que je l'ai fait parce que c'était cet épisode-là, des dépressions profondes, cliniques et tout ça, c'est ça qui m'a amené à écrire pour Soudan, un de mes livres il y a bien longtemps. Mais disons que c'est cet épisode très personnel, intime, qui a fait de moi un vagabond.
Extérieur Monde est aussi un livre sur les amis qui disparaissent peu à peu. Dans les carnets d'Olivier Rollin, il y a des adresses dont il ne poussera plus les portes, des numéros de téléphone qu'il ne composera plus. Ce livre, écrit-il, est un livre sur l'éloignement du monde.
Extérieur Monde d'Olivier Rollin aux éditions Gallimard, c'est notre conseil pour le week-end.
Eh ben, merci beaucoup pour ce conseil. C'était le journal d'Amélie Perrier. Encore beaucoup de marche à pied, de vélo et de trottinette ce week-end. Alors, quel temps va-t-il faire?
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps plus doux mais très nuageux demain.
Et oui, beaucoup de nuages sur la plupart des régions. Quelques gouttes possibles entre le sud-ouest et le nord-est. On trouvera quelques rayons de soleil du nord-ouest vers le nord de la Seine, du côté de la plaine d'Alsace également. Des Pyrénées vers le sud des Alpes et la Méditerranée, là ce sera du soleil avec du vent du Roussillon à la Corse. Il fera 2 degrés à Mulhouse et à Aurillac le matin, 5 à Lille et à Agen, 6 à Rennes, à Marseille, 9 à Ajaccio. Et puis l'après-midi, 8 à 14 degrés jusqu'à 14 à 17 en Méditerranée.
Et dimanche, une nouvelle période perturbations.
Eh oui, de la pluie, du vent. Attention, vent qui deviendra tempétueux au nord dans la soirée de dimanche. La région PACA et la Corse garderont un temps sec. Les températures gagneront encore quelques degrés avec une moyenne de 12 degrés au nord et de 13 au sud.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.